Le lieutenant Feelgood et son chat Vivagel, la princesse déchue Azala, le lieutenant Ralato et Fabio Uli, son frère, le plus puissant mental n'ayant jamais existé. Le contre-amiral Pophéus, tout puissant chef de la sécurité planétaire. L'aventure commence. Chapitre 1, deuxième partie.
Raid d'univers. Chapitre 1. L'envol de Materwan.
Un son aigu du pipeau de l'ordonnance à l'entrée résonna dans le hangar numéro 4, et tous les hommes et femmes d'équipage présents se figèrent au garde à vous. Phil vérifia d'un coup d'œil son alignement dans le groupe, puis se focalisa sur un point éloigné droit devant lui. C'était la revue de troupes avant le départ, le discours du commandant à son équipage, le préambule à l'aventure. Il avait trouvé son responsable d'unité avec difficulté, car même si les départs spatiaux étaient quelque chose d'usuel depuis des siècles, l'ampleur de l'exode multipliait les débordements de toutes sortes. À peine arrivé, alors qu'aucune cabine ne lui avait été assignée, il avait commencé son travail à la porte du hangar, justement celle devant lui, qui montrait des soucis de roulement et peut-être d'étanchéité. Assisté de deux manœuvres, il avait passé plusieurs heures à réparer l'ensemble, y apportant grand soin. Dans l'espace, les défauts d'étanchéité, cela ne pardonnait pas. Alors que ses affaires et son chat somnolent, Vivagel ne stressait jamais, mais alors jamais. Était toujours dans la soute au milieu des chargements de toutes sortes, on l'avait prévenu de l'imminence de la revue de troupes. Changement de tenue entre deux caisses, sous l'œil mi-clos mais amusé de son matou, et le voici au garde à vous avec son unité. 712 membres d'équipage plus 307 membres des forces de l'ordre et une cinquantaine de soldats. C'était peu pour un vaisseau de presque un demi-million d'âmes, mais pour le hangar numéro 4, c'était largement suffisant. On avait resserré les rangs pour faire tenir tout le monde. Des pas approchaient. Deux yeux bruns se plantèrent dans les siens, le tirant de ses pensées. Des galons, un regard expressif, un discret sourire et les yeux repartirent, poursuivant l'inspection. Le commandant Aurora Benkana était une grande femme. Les cheveux blonds tirés en queue de cheval, la mâchoire prononcée et la peau marquée par la vie de guerrière qu'elle avait toujours menée. Elle n'affichait aucune expression, mais sa réputation disait qu'elle s'était couverte les mains de sang durant la Révolution. C'était étrange de l'imaginer à la tête d'un des vaisseaux de l'Exode. Elle faisait partie de ces héros dont la jeune République Castique avait pourtant fait les louanges. Mais nous étions alors, il est vrai, dans les premiers mois suivant la chute de la royauté, à une époque où la majorité de la population, encore abasourdie par la nouvelle, patientait, attentive mais bienveillante. Ainsi, elle faisait également partie du schisme qui avait abouti à l'exode. Cela en disait long sur les soutiens ténus du gouvernement. Ayant terminé sa revue, le commandant marcha d'un pas assuré vers l'estrade. Phil fit le vide dans sa tête. Le passé de cette femme était glorieux, et elle allait déterminer l'avenir de tous sur ce transporteur durant les mois à venir. Mieux valait l'écouter, non ? Aurora Benkana n'excellait pas dans les discours. Elle détestait même ces exercices de communication où le moindre mot comptait, où la moindre intonation devait être convenue et réfléchie. Mais elle n'en ignorait pas non plus la valeur. La plupart de ces hommes et femmes ne la connaissaient pas. Il s'agissait de se présenter, de nouer un contact un peu plus intime avec eux, d'humaniser ce qui allait faire la majorité du temps à bord du transporteur, discipline et consigne. Elle allait donc axer son discours sur le besoin de cohésion entre les membres d'équipage. Encore fallait-il en rappeler l'impérieuse raison.
Nous allons être seuls. Seuls comme jamais nous l'avons connu. Dans le voyage d'une année que nous entreprenons vers la planète Antares 4, nous ne pourrons compter que sur le soutien de la flotte, et cela ne sera pourtant pas suffisant. Je suis le commandant Aurora Benkana. Nombre d'entre vous me connaissent de réputation, mais très peu ont déjà eu l'occasion de servir à mes côtés. Je n'accepte pas la faiblesse au combat, j'en ferai de même lors de cette expédition. Je vous demanderai à tous de donner le meilleur de vous-même, car ce sera le minimum nécessaire.
Elle marqua une pause. Son assistance était visiblement médusé par son introduction, lui offrant ainsi toute son attention.
La flotte de l'Exode va attirer les convoitises de toutes sortes, des marchands, des pirates. Nous allons devoir traverser des régions inhospitalières et inexplorées de l'espace. Notre planète mère sera trop contente de se débarrasser de nous sans nous procurer la moindre assistance. Et je vous rappelle qu'il ne s'agit en aucune façon d'une mission d'ordre militaire, c'est-à-dire que notre armement sera limité au strict minimum défensif. Enfin, durant cette année de voyage, il nous faudra nous préparer à la future installation dans la colonie, dont les conditions de vie sont réputées difficiles. Oui, nous allons bel et bien être seuls, mais avec un espoir à la fin du parcours. Vous avez peut-être été mes adversaires par le passé. Nous ne sommes pas forcément tous de même conviction, mais notre but, celui de tout l'Exode, est le même. Trouver le bonheur dans la liberté. Et je ferai tout pour que chacun d'entre vous y arrive, sain et sauf, et puisse reconstruire un foyer avec ceux qu'il aime. Croyez en la flotte de l'Exode, croyez en moi, et surtout croyez en vous, en vos sœurs et frères d'armes qui, à vos côtés, sont la chair et le sang de ce vaisseau.
Nouvelle pause, un peu plus longue. En ce moment, les autres commandants, dont certains étaient de ses amis, devaient procéder à des allocutions semblables. Eux au moins n'avaient pas ces réticences oratoires. Elle laissa son regard couler sur l'équipage, plus pour imposer sa présence qu'à la recherche d'interlocuteurs. Aurora fixa soudain une silhouette féminine, vêtue de blanc, à demi cachée dans la pénombre de la passerelle surplombant le hangar. La tête de la silhouette se pencha doucement en une discrète salutation. Le léger voile de soie la recouvrant volta quelques secondes, puis se remit en place. Après quelques instants d'hésitation, elle sut de qui il s'agissait. Il lui semblait presque sentir le poids du regard de cette noble silhouette tant aimée. Tout le passé revenait, des frissons la parcouraient jusqu'à réveiller des sensations oubliées dans ses recoins les plus intimes. Ainsi, elle était là. Son second tourna la tête. La pause était trop longue, il se posait des questions. D'une voix qu'elle espérait à peu près sûre d'elle, elle clôt le discours, fit rompre les rangs, fixant une dernière fois la silhouette qui s'éloignait dans l'obscurité de la passerelle. Elle ajouta à voix basse, à destination de son second.
« La princesse Azala est à bord de ce transporteur. Faites-lui passer mes amitiés et invitez-la à prendre une collation dans mes quartiers après le départ en transition. »
Il confirma en saluant son supérieur, puis s'en alla d'un pas rapide trouver le logement de la princesse. La fille de Magnum 4 marchait mécaniquement dans le couloir, essayant de cacher son visage derrière les volutes du voile de soie. La surprise du nom du commandant du vaisseau, les appels internes annonçant la revue des troupes pour le discours. Elle n'avait pas hésité une seconde, enfilant ce qu'elle trouvait, ce qui pourrait la dissimuler, et était partie vers le hangar où se tenait la revue, laissant la pauvre Melba seule au beau milieu du déballage des valises. Lorsqu'Aurora était apparue dans le vaste hangar, le cœur de la princesse s'était serré à lui en faire mal, ses jambes se dérobant sous elle. Elle avait dû s'accrocher à la rambarde pour ne pas défaillir et respirer profondément comme lors des exercices de méditation. Le pire moment, ce fut quand leurs regards se croisèrent. Elle n'avait rien trouvé mieux que de hocher la tête. Quelle sotte ! Elle n'était même pas certaine qu'Aurora l'avait reconnue. Cela faisait une année qu'elle ne s'était revue. S'arrêtant un instant devant un hublot donnant sur la cité intérieure du transporteur, Azala se laissa quelques secondes de répit pour calmer la tempête qui faisait rage en elle. C'était peu après l'exécution de son père, à l'époque où elle avait dû soudain admettre qu'elle serait la dernière descendante de la lignée des rois de Materwan. Son univers s'était volatilisé, et celui qui l'avait élevée ne la prendrait plus jamais dans ses bras. À ce moment était apparue à ses côtés Aurora qui, contre toute attente, l'avait soutenue, puis bien plus. Elles s'étaient trouvées et aimées. Puis à nouveau, du jour au lendemain, Azala s'était retrouvée seule dans son chagrin. Une lueur de sérénité, sinon de bonheur, évanouie dans les terres. Un an plus tard, et voici que, dans le retournement du destin qu'elle vivait maintenant, Aurora réapparaissait. La princesse renouvela ses exercices de respiration, tentant de refluer le plus d'émotions possible pour déterminer une stratégie, choisir une approche, bref, reprendre ses esprits. Les gens vaquaient autour d'elle, bien plus occupés à trouver leur futur logement ou à un ami égaré qu'à s'interroger sur les affres de cette femme voilée solitaire se perdant dans la contemplation. Ça y était, elle venait enfin de se poser la bonne question. Le hasard peut certes faire des choses, mais pas en politique. Pas lors de l'Exode, pas à ce niveau. Quelle pouvait bien être la raison de leurs deux présences en ce lieu ? Azala désirait ardemment se sentir enlacée à nouveau par cette femme, mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance ? Elle devra trouver une raison pour l'approcher sans que cela ne soit trop évident. Le commandant avait toujours été sincère avec elle. Alors qu'elle était proche de ses appartements, la solution la heurta quand le second, trop pressé, lui apporta l'invitation. Des gigantesques files d'attente de dizaines de kilomètres qui sillonnaient la région, il ne restait pratiquement rien. Les milliers de véhicules avaient été soit démontés comme fret, pour certains passagers ayant acquitté le forfait prohibitif, soit désossés pour les stocks de pièces détachées durant le voyage, les restes ayant été concassés et envoyés aux grandes usines de recyclage du nord de Materwan. Quelques véhicules retardataires arrivaient encore au pied du transporteur, négociant ou non une place à bord du vaisseau. Théoriquement, tous les espaces avaient déjà été assignés, mais une marge existait. Un pourcentage laissé volontairement vacant pour ce genre de cas, des emplacements vétustes ou très mal situés. Un marché noir s'était développé naturellement autour de ces logements, alimenté surtout par des réseaux sans scrupules, avides de tirer quelques bénéfices du départ de l'Exode. Ce n'était pas une croisière d'agrément. Il n'y aurait pas de retour. Ceux qui voulaient partir en assumaient le besoin ou la nécessité. Le nouveau régime qui se dessinait ne leur offrirait pas de vie facile, voire les persécuterait. On racontait aussi que, dans certaines familles, on envoyait à l'exode des personnes dont on voulait se débarrasser. Des jeunes trop insouciants ou des vieux trop remuants dont le départ soulageait ou arrangeait les autres membres. Le monde évolue, mais les mentalités demeurent. Ressemblant de loin à une grosse guêpe, le transporteur faisait partie de cette série de cargos spatiaux à très gros tonnage, destinés aux allers-retours vers les zones de développement, principalement minières, hors du système solaire. Conçus pour convoyer un fret volumineux, ces vaisseaux avaient connu leur gloire à une époque où l'on croyait naïvement à la matière première spatiale bon marché. Les nouveaux modèles étaient plus rentables, moins gourmands, Talbium 3, plus petits, maniables et plus rapides pour éviter les pirates. Si l'on se demandait encore, il y a quelques mois, ce qu'allaient devenir ces gros monstres métalliques inutiles, l'Exode apportait la réponse idéale. À bord d'un transporteur coexistaient plusieurs sortes de restaurants, des cinémas, des petits espaces verts, parfois bricolés à la va-vite, et surtout quatre hangars géants d'appontage avec quelques navettes et une immense réserve de stockage à l'arrière. Un grand nombre de ponts les cloisonnaient. Plusieurs artères principales de la taille de véritables avenues le parcouraient dans le sens de la longueur, traversant des zones où l'on avait entassé une quantité impressionnante de containers d'habitation appelés pudiquement « cité intérieure ». Toute une population de presque 500 000 personnes devait y trouver place et s'y mouvoir dans la mesure où les grands axes resteraient praticables. Sinon, il y avait un service de navettes tubulaires, une sur chaque flanc, où l'on pouvait parcourir assez rapidement le vaisseau tout en admirant le paysage spatial, les tubes étant fixés le long de la coque extérieure. Pour la sécurité, un espace sous le bâtiment était réservé à une petite base aérospatiale de 5 chasseurs légers ainsi qu'une caserne de soldats. Enfin, pour créer une proximité rassurante avec la population, plusieurs postes de milices étaient disséminés un peu partout. Mais il restait la question de la monnaie utilisée à bord. Y aurait-il des riches et des pauvres durant l'année de voyage ? Devrait-on gagner un salaire pour se nourrir et surtout comment ? Il était de toute façon bien trop risqué de laisser toute une population livrée à elle-même sans occupation. Cela se termine souvent mal. Le travail est une des rares vertus que les masses comprennent. Cela leur évite de trop réfléchir. Donc on avait pensé le voyage de la manière la plus évidente. L'abolition pure et simple du système monétaire durant la durée du trajet. Les valeurs des comptes en banque étaient enregistrées sur des supports de stockage. Et la charge revenait aux migrants de trouver, sur leur future planète, une base physique à cette monnaie. Or, platine, talbium 3. À bord, on avait mis en place un standing de cabine lié, si possible, au niveau social de départ du locataire. L'alimentation était gratuite pour tous sans être illimitée. Un système informatisé de réservation permettait à tout un chacun de choisir son lieu de restauration suivant les places disponibles. Et une fonction utile à la communauté, ou au vaisseau, avait été attribué même à mi-temps. Heureusement, le simple fait de gérer et d'organiser la vie de tant de communautés donnait du travail à pratiquement la moitié des exodés. En tenant compte des spécialités de chacun, on avait pu également étoffer les équipes du vaisseau, mais il restait encore une petite partie de la population qui n'avait pas de fonction. On devra leur en trouver une pour l'année à venir. L'Exode était un mouvement de population volontaire avec un but clair, fuir un régime de plus en plus autoritaire pour rejoindre la planète inhabitée Antares 4 et y créer une nouvelle société humaine. Partant de ce constat, il avait été supposé que tout ce monde lié autour des 7 transporteurs allait rester relativement soudé car désireux de parvenir à s'installer sur la nouvelle planète sans encombre. On avait cependant déjà noté à bord des vaisseaux un regroupement par quartier et par rue d'affinités régionales ou culturelles. Les bruns ne se mélangeaient guère aux nordistes, les barbanes aux tropicaliens, etc. Les commandants les plus prévoyants allaient sans doute y mettre bon ordre sous peine de voir se développer un communautarisme de mauvais augure. Ils allaient pouvoir échanger leur point de vue à ce sujet lors du Conseil des commandants de la flotte, une institution qui assurera la stabilité hiérarchique et politique durant le voyage. Ses membres seront les maîtres du destin de l'Exode et donc de ce moment unique dans l'histoire. La charge pesant sur leurs épaules était énorme, donc leur sélection avait été le fruit d'un consensus et d'une réflexion serrée. Une première réunion du Conseil était d'ailleurs programmée dès le lendemain du départ, durant le premier ravitaillement en orbite. Et non, pas de démocratie parlementaire dans un vaisseau en transit. De mémoire d'homme, c'était bien trop dangereux. Tout en plus, se contentera-t-on peut-être de créer des commissions participatives sur tel ou tel sujet, mais seule la nécessité ou l'expérience en jugera l'utilité réelle. Au son des 3 coups de klaxon successifs, Feelgood releva la tête. Ça y était, l'heure du grand départ avait sonné. Était venu le moment des séparations, des regards humides croisant les adieux plus démonstratifs, tandis que d'autres noyaient leurs pensées vers le fond de l'univers, le cœur ouvert à l'avenir. Pour l'occasion, certains sas d'accès avaient été ouverts et même les massives portes des hangars étaient béantes, augmentant de fait le chaos des adieux. Le lieutenant terminait d'installer ses affaires et son chat dans la cabine. En tant qu'officier, il avait le droit à une cabine personnelle, quelque peu étriquée certes, mais largement suffisante pour Vivagel, celui-ci nécessitant surtout la présence d'une moquette, d'un lit et d'une télévision. Il sourit en se demandant quel genre de rediffusion allait être proposée durant le voyage. Vivagel deviendrait-il un amateur de vieux téléfilms ? Par la verrière principale de l'avant du vaisseau, on pouvait apercevoir la tribune officielle où le gouverneur de la province ainsi qu'un ministre inconnu prenaient place, accompagnés de leurs valets et conseillers. D'ici peu, ils allaient tous lire leurs discours, probablement félicitant les courageux pionniers qui partaient implanter la race humaine à des distances encore jamais atteintes par des colons, leur souhaitant bonne chance et surtout bon débarras. Ce qui était en train de devenir un système totalitaire ne pouvait que se réjouir du départ simultané de tant d'opposants potentiels. Phil ne les connaissait que trop bien, ces pragmatiques nouveaux dirigeants de Materwan, si promptes à mettre la main à la poche pour financer l'Exode. Ils avaient pris leurs précautions. La responsabilité du lieutenant Good était de veiller à la sûreté du matériel et à sa bonne tenue. Des espions ou des pièges avaient probablement été installés à bord des vaisseaux. Il allait falloir les débusquer et les neutraliser. Peut-être même des balises ou des bombes, qui sait. 4 heures plus tard, les discours avaient pris fin. Le commandant Benkana ordonna la fermeture des sas, des cloisons et le passage en atmosphère artificielle dans le vaisseau. Alors que les gigantesques panneaux des hangars se fermaient, un groupe de jeunes filles en tenue traditionnelle secouait de petits mouchoirs blancs, signe de bon voyage ou d'enterrement suivant les cultures. L'orchestre philharmonique de la province joua un air pompeux, duquel était, dit-on, inspiré le nouvel hymne planétaire de Materwan, une manière peu subtile de congédier les candidats au départ. Dans la grande salle de commandement, les indicateurs étaient tous ouverts et les opérateurs attendaient, retenant leur respiration. Benkana se tourna vers le contrôle radio.
Demandez l'autorisation de départ à la tour de contrôle du spatioport.
Attendez !
Une voix féminine résonna dans la salle, puis ce fut le silence. Azala, dans sa tenue officielle de princesse de Materwan, qu'elle avait interdiction de porter depuis la fin de la monarchie, s'approcha de la radio.
« Commandant Benkana, je vous demande le droit, de par mon lignage et ce que ma famille a représenté pour Materwan, de faire moi-même cette demande et de donner l'ordre de départ de ce transporteur. »
Ajoutant plus bas,
« S'il te plaît. »
Tous les regards se tournèrent vers le commandant. Voilà qui commençait bien, le vaisseau n'était même pas encore parti que déjà des problèmes se posaient. Benkana souleva un sourcil et un sourire se dessina sur son visage.
« Mais bien sûr, princesse Azala, je vous autorise ce privilège au nom du nouveau monde que nous allons créer. » Radio, passez-lui le micro.
Le radio s'obtempéra et la jeune femme, fébrile, tint le communicateur bien serré de ses deux mains.
Tour de contrôle du spatioport, ici le transporteur. Je vous demande l'autorisation de quitter l'espace du spatioport et de Matter One.
Ses yeux brillaient de larmes, mais Azala tenait bon. Les haut-parleurs de la salle crachèrent rapidement la réponse.
Transporteur numéro 266, vous êtes autorisé à décoller et à quitter l'espace de Matter One. Bonne chance à vous.
La princesse se redressa de la console et fit quelques pas vers le centre de la salle pour attendre la suite, proche de Benkana. Elle serrait la mâchoire tandis que le second récitait les procédures de décollage pour les vaisseaux de ce type. Compte à rebours des moteurs antigravitiques, des magnétismes, des amarres de vol, verrouillage automatique de toutes les issues et hangars. Pendant que les ordres fusaient de chaque recoin de la salle de commandement, Benkana observait la jeune princesse. Elle aurait dû régner sur cette planète. Tout juste lui laissait-on le droit de partir. Décidément, cette petite lui plaisait. Sa présence à ses côtés sera une bonne chose. Un signe de tête du second et elle s'adressa officiellement à sa voisine.
« Princesse, c'est le moment. »
Celle-ci inspira, puis, sans trace d'hésitation dans la voix, lança distinctement l'ordre.
« Activation des moteurs antigravité !»
De la tribune du dehors, le gouverneur ressentit cette étrange sensation de flottement interne et son chapeau feutre devint plus léger tandis que la gravité était annulée au centre du transporteur. Il vit la monstrueuse masse qui cachait le soleil et les montagnes s'élever lentement, sans tourmente, comme un ballon gonflé qui montait doucement au ciel. Encore quelques dizaines de minutes et le vaisseau serait assez haut dans l'atmosphère pour lancer à minima ses puissants moteurs au talbium 3 qui allaient l'emporter vers l'orbite de glissement autour de la planète. Combien était-il réellement à bord de ce bâtiment ou de l'Exode? Seuls des décomptes démographiques donneraient la réponse exacte. Mais Matter One venait de perdre au nom de l'idéologie un vivier énorme de savoir-faire, de création ou de penseurs. Il inspira, regrettant tous ces citoyens que l'on perdait. Puis il se ravisa. La philosophie ne servirait à rien dans les prochaines années de sa planète, et seuls les vivants écrivent l'histoire. Sans même attendre la disparition du vaisseau dans les nuages, il quitta l'estrade. Phil, l'officier technicien au char roux, Azala, la princesse déchue, Benkana, le commandant à poigne, Pophéus, l'ambitieux contre-amiral, Ralato et Fabio Uli, les frères mutants, Matter One, la planète bleue, chaude et répressive, et Antares IV, petite planète rouge, froide, porteuse de tant d'espoir. L'aventure vient seulement de commencer. Fin du chapitre 1.
Réalisation, Raoulito et Yann. Écriture, Raoulito, Andropovitch et Arthur. Assistant de réalisation et direction de production, Andropovitch. Composition des musiques originales, montage et mixage, Yann. Mastering, Blast. Narration, Raoulito. Feel Good, Laurendil. Princesse Azala, Anouan. Contre-amiral Pophéus, Pof Magic Ringer. Ralato Oli, Raoulito. Fabio Oli, Zilan. Aurora Benkana, Anoan. Voix du générique, Zizou. Une production de l'association Podchose. Merci au forum Netophonix et à toute l'équipe de Red Universe.